Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Et nous sommes en train de clôturer, en tout cas ce soir nous allons clôturer le message aux sept églises. Et nous verrons que juste après dans l'Apocalypse, d'un seul coup, il va y avoir un sujet qui va être complètement différent. Nous allons entrer après dans toute la révélation du monde invisible et de tout ce qui va se passer prophétiquement, tout ce que Dieu a prévu d'avance selon sa souveraineté. Je vous rappelle que la volonté de Dieu peut être révélée dans sa parole.
Et
il y a beaucoup de choses que Dieu veut pour les hommes. Et parfois, les hommes entrent dans sa volonté et font sa volonté. Mais souvent, ils désobéissent à sa volonté. Par contre, il y a une chose qui s'appelle la volonté souveraine de Dieu, qui sont des événements prophétiques où Dieu dira clairement, voilà ce qui va se passer. Et rien ne pourra changer ce que j'ai arrêté d'avance. Et ça s'appelle la volonté souveraine de Dieu. Alors ce soir, nous allons bien sûr clôturer avec le chapitre 3 la révélation que Jésus a donnée et les exhortations, les corrections que Jésus va donner aux sept églises. Et nous avons vu que l'Apocalypse est un livre particulier, nous l'avions introduit. Mais qu'il ne faut pas voir ce livre comme Apocalypse égale catastrophe. Non, Apocalypse d'abord ça veut dire révélation. Et d'autre part, c'est l'accomplissement de toute chose, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui est instauré, une bonne fois pour toutes. C'est ce que nous verrons dans les événements prophétiques. Mais entre-temps, nous avons quand même réalisé un certain nombre de choses. Nous avons vu comment Jésus va se révéler à Jean. Et nous avons expliqué ce que c'était que les visions, les différentes visions. Nous avons vu comment Jean était en prison à cause de sa foi. Sur l'île de Patmos, je vous ai montré où se trouvait cette île. Et puis Jésus se révèle à lui comme Jésus glorifié. Et là, on voit vraiment la gloire de Christ, telle que d'ailleurs nous la verrons lorsque nous irons au troisième ciel. Ce Jésus qui s'est révélé là dans l'Apocalypse 1, c'est ce même Jésus que vous verrez quand vous allez quitter votre corps et aller auprès du Seigneur. Donc c'est bien de savoir à quoi s'attendre. Vous savez, il y a des choses qu'on ressent fortement dans notre esprit quand on médite la parole de Dieu. Cette parole se révèle quand vous passez du temps avec. Et il y a des choses que vous n'avez jamais vues avec vos yeux. Mais c'est comme si vous les aviez vues quelque part. C'est-à-dire que vous les ressentez tellement fortement quand Dieu commence à venir avec sa présence sur vous. Et quand vous passez du temps à méditer sa parole, que ces choses deviennent une puissante réalité. C'est ce qui crée d'ailleurs nos convictions, frères et sœurs. Vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'indestructible possible.
Si
cette parole n'est pas pleinement en vous. Quand la parole demeure en vous avec abondance, les gens peuvent raconter toutes sortes de choses à propos de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut essayer de vous dire, ça vient de Dieu, ceci, cela. Vous êtes tellement dans les convictions de Dieu que vous êtes capable clairement de faire la différence entre ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Parce que vous connaissez les réalités au travers de votre esprit. C'est sûr que parfois il y a des gens qui ont eu des visions, comme Jean d'ailleurs. Et c'est extraordinaire d'avoir de telles visions. Mais nous n'avons pas de promesse dans la parole de Dieu.
Il
nous dit que si nous prions, nous allons recevoir des visions. Les visions, c'est quelque chose qui va s'imposer à nous. Toutes les personnes d'ailleurs qui ont eu des visions vous diront, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Et d'un seul coup, c'est venu. Et j'ai vu Jésus. J'ai vu des anges. Où j'ai été ravi jusqu'au troisième ciel, comme Jean. Je relisais ce livre, cet excellent livre que je vous conseille, de Kenneth Hagin, Je crois aux visions. Et c'est, à chaque fois il dit ça, il dit, mais je ne m'y attendais pas du tout. C'était au cours de ma vie chrétienne et de mon ministère. Et d'un seul coup, Dieu s'est révélé à moi. Et j'ai eu telle ou telle vision. Et c'est un homme dont la vie a été marquée par beaucoup de visions. Mais c'est comme ça que ça se produit. Mais c'est une grâce de Dieu qui arrive chez certaines personnes. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un ange.
Je n'ai
jamais vu Jésus. J'ai déjà eu des visions dans mon esprit.
Je n'ai
jamais eu des visions où j'avais les yeux ouverts, où j'ai vu un ange ou le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour ça que je ne dois pas marcher par la foi. Par contre, il y a des choses que Dieu m'a révélées sur le monde invisible, sur la foi, sur toutes sortes de choses que nous étudions, qui sont pour moi extrêmement réelles, qui me permettent de marquer des convictions, avoir des jalons dans ma vie spirituelle, des repères sur lesquels je peux fonder ma vie. Parce que c'est la révélation, non pas des visions, des choses que j'ai vues, mais des choses qui sont tellement ancrées dans mon esprit que personne ne pourra les déloger. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Maintenant, Dieu peut dans notre vie parsemer des visions, mais ça c'est à son initiative. Vous ne pouvez pas vivre avec ces choses-là en disant je vais vivre de vision en vision. Non, vous vivez avec la parole et aussi le Saint-Esprit qui va vous parler et vous allez marcher par la foi. Le jour où vous quitterez votre corps, tout ce monde qui nous est décrit dans la parole que nous ne voyons pas avec nos yeux, nous le verrons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui t'empêche de voir ces choses, c'est tes yeux de chair, c'est ton corps. Parce que ton corps n'est pas né de nouveau. Ton corps restera ici. La maison dans laquelle tu habites. Où ton vrai toi-même, ton être réel habite, eh bien restera ni plus ni moins sur cette terre. Et c'est là où ton esprit et ton âme partiront. Alors nous avions vu les sept églises, enfin nous en sommes à la septième. Et je vous rappelle que Jésus dans chaque église va donner un message particulier pour chaque église. Éphèse, nous l'avons vu, c'est la seule église dont nous avons connaissance dans le Nouveau Testament. Elle avait environ, je dis bien environ une cinquantaine d'années lorsque Jean reçoit sa vision, cette église. Et là on voit une église qui est bien enseignée, qui porte des fruits. Mais elle a tendance à se replier sur elle-même. Ça veut dire qu'elle n'est plus ouverte. Elle est bénie, bénie, bénie de partout. Mais elle a plus l'air d'évangéliser. Elle connaît très bien la parole. Elle sait même éprouver les ministères. Mais elle a perdu cette ce parfum du premier amour.
Ce
qui fait qu'en fait un chrétien est motivé pour Dieu et il aime Dieu pour qui il est. Ensuite, nous avons vu la deuxième église, qui est l'église de Smyrne. Et nous avons vu que l'église de Smyrne, eh bien en fait, c'est une église qui se laisse dominer par le monde. Et en fait, Smyrne se laissait dominer par les persécutions. Comme elle manquait beaucoup de puissance, eh bien, en fait, elle s'est retrouvée à souffrir inutilement. Et Jésus est obligé de la consoler parce que Jésus sait très bien que cette église ne pourra pas sortir de sa vie de défaite régulière vers une vie victorieuse de dominateur. Ensuite, la troisième église que nous avons vue, c'est Pergame. Et là, nous avons vu que c'est l'église qui laisse les manifestations prendre le dessus et les manifestations qui ne viennent pas de Dieu. Et les histoires de Balaam et de Balak, nous l'avons vu. En fait, des gens qui utilisent les dons de Dieu pour des fins personnelles. Ça peut être pour se glorifier. Ça peut être pour se tirer de l'argent. Ça peut être pour faire toutes sortes de choses qui sont condamnées par la parole de Dieu. Parce qu'une personne a un don de Dieu qu'elle utilise correctement au départ et après dont elle abuse. C'est-à-dire qu'elle l'utilise comme justement Balaam, qui avait été prophète, et Balak, le roi Balak, a essayé de le pervertir en lui donnant de l'argent pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Et nous avons vu que ça, c'est vraiment pervertir ce que Dieu nous donne. Et dans cette église, il y avait un certain nombre de manifestations démoniaques. Et il a fallu vraiment que le Seigneur se fâche par rapport à ça et donne ce message à propos justement des gens qui se laissent avoir comme cela. Alors ensuite on a vu Thyatira, la quatrième, et là c'était le summum de laisser quelqu'un qui finalement domine l'église de Dieu. Ce qu'on appelle les esprits familiers, les faux prophètes. Et là, entre autres, c'était une fausse prophétesse qui apparemment avait soudoyé les serviteurs de Dieu là-bas, c'est-à-dire leur donnait de l'argent, entre autres. Ou faisait tout un tas de péchés, d'immoralité avec eux. Et elle dominait l'église. Et ce que Jésus reproche, c'est que les dirigeants de cette église connaissaient cette femme, cette fausse prophétesse. Ils savaient que c'était une fausse prophétesse. Mais il a laissé exercer le ministère dans l'église. Et ils ne disaient rien parce qu'ils en retiraient des profits. Et Jésus a été très dur par rapport à cette église, parce que justement, ça c'est ce que Paul reprochait aux Corinthiens. Savoir qu'il y avait des gens qui manipulaient, qui étaient dans le péché ouvertement, et que personne ne disait rien. Ensuite, nous avons vu l'église de Sardes, c'est la cinquième église. Et là, c'est une église qui est, qui a beaucoup de mélanges avec le message de l'évangile où il y a des vrais et des faux chrétiens. Et Jésus les prévient clairement. Il leur dit attention. Moi je reviens. Et pour l'enlèvement, quand je vais chercher mon église, eh bien ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ceux que je connais, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Pas les faux chrétiens. Pas ceux qui se réclament de Christ et qui ne sont jamais passés par une sincère repentance et qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui disent moi je vais prier dans telle église, moi je lis la Bible, moi je suis baptisé, etc., etc. Et je vous rappelle que tout ça n'a aucune valeur devant Dieu. À partir du moment où on n'est pas né de nouveau, rappelez-vous d'une chose, l'évangile n'est pas une affaire de baptême, l'évangile n'est pas une affaire de nom d'église à laquelle on appartient, l'évangile est une affaire de royaume. On doit naître dans le royaume de Dieu. On doit naître de nouveau. Et à ce moment-là, une fois qu'on est dans le royaume, alors effectivement, quand on prie, on développe sa relation avec Dieu. Quand on lit la parole, on se nourrit. Quand on se fait baptiser, c'est l'expression externe de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur. Donc Jésus prévient cette église. Et il est clair, il leur dit, attention, parmi vous, il y a des vrais, mais il y a beaucoup de faux aussi. Ensuite, la sixième église que nous avons vue, à qui Jésus adresse un message, c'est Philadelphie. Et là, c'est une église qui a peu de puissance. Ce n'est pas normal d'ailleurs. Mais par contre, elle est intègre. Et Jésus dit vraiment qu'elle a les clés de David, c'est-à-dire qu'elle a le cœur de David. Et en fait, Jésus ne méprise pas les petits commencements. Par contre, il ne se contente pas les petits commencements. Il ne veut pas qu'on en reste là. Mais je vous ai montré une chose. Ce n'est pas là où vous commencez qui est important. Ce n'est pas là où une église commence qui est important. À partir du moment où elle commence dans la volonté de Dieu, bien sûr, l'important c'est la vision qu'elle a et là où elle veut aller. Et ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. On voit de beaux démarrages dans le Seigneur ou des églises qui ont l'air d'un seul coup, tout le monde en parle. Oui d'accord, un beau démarrage, dans une belle conversion, c'est bien. Maintenant c'est pas la garantie que la personne ne va pas rétrograder. Ce n'est pas la garantie non plus que la personne va grandir dans le Seigneur. Il y a des gens qui étaient bouillants pour le Seigneur au début et qui sont complètement endormis quelques années plus tard. Il y a des églises qui ont démarré, elles ont vu des signes, prodiges et miracles, tous les gens en parlaient. Et puis 10 ans, 15 ans plus tard, vous allez dans cette même église, c'est complètement mort. Il n'y a plus aucune manifestation de Dieu. Par contre, il peut y avoir éventuellement du monde. Ce n'est pas là où vous commencez qui est important. C'est là où vous voulez aller. Et ça, il faut toujours s'en souvenir. Et c'est ce que Jésus disait à cette église. Elle avait une intégrité. Et il lui disait, continue, tiens ferme ce que tu as. Ce qui ne veut pas dire qu'elle devait rester dans cette dimension-là. Parce que vous savez, souvent on lit l'Écriture et on regarde et on se dit, mais finalement, bah oui, Jésus aime les petites choses, les petits, etc. Oui, ça, d'accord. Mais ça c'est pour commencer. C'est jamais une finalité. Quelqu'un qui a une petite vie spirituelle, il a quand même une vie spirituelle. Mais si dans 10 ans il en est encore là, bah, ça ne sera pas très génial. Et souvent les chrétiens n'ont pas la vision de penser, de voir grand, d'imaginer grand, de voir vraiment les immenses choses que Dieu a en réserve. Et ça c'est vraiment une plaie dans le christianisme où souvent on a enseigné ça, qu'on doit se contenter de peu, qu'on doit être petit, qu'on doit se taire, qu'on ne doit pas bouger parce que ça plaît à Dieu, parce que la Bible nous en parle. Oui, pour le démarrage. On démarre là où on en est. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Maintenant, nous allons voir la septième église. Et la dernière, donc. Donc, on va lire les versets suivants. Après, donc, on va lire Apocalypse 3. À partir donc du verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, donc c'est la dernière. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que tu n'aies pas la honte de ta nudité, que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ici, Jésus va s'adresser à la dernière église. Et en fait, l'idée de Laodicée, entre guillemets, si on résume un peu cette église, c'est que c'est une église qui pense tout savoir, mais qui a besoin de se repentir. Vous voyez, ce n'est pas une église où Dieu fait une croix rouge en disant « je te jette ». Je vous rappelle que Dieu nous donne toujours une chance de revenir. Ça, c'est toujours le cœur de Dieu. Ça peut ne pas être notre cœur quelque part. Parce que parfois, vous savez, des fois dans nos relations ou dans des choses qu'on a vécues et qui ont été récurrentes, c'est-à-dire qui sont revenues X fois, que d'autres ont peut-être pu nous faire. Au bout d'un moment, nous pouvons dire maintenant c'est fini, j'en ai assez, parce qu'à chaque fois, ça recommence. Mais Jésus dit clairement ici qu'il châtie ce qu'il aime. Nous allons étudier cela. Mais d'abord, on va regarder comment Jésus se présente. Et il est dit donc, voici ce que dit l'Amen, la moitié du verset 1. Alors, voici ce que dit l'Amen. Il se nomme comme l'Amen. Alors, Amen, c'est donc un mot qu'on utilise nous souvent les chrétiens. Et en fait, tu veux dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est souvent utilisé pour appuyer une vérité avec laquelle nous sommes d'accord. C'est aussi à la fin, par exemple, de prières. Par exemple, on peut regarder Matthieu 6, verset 13. Jésus nous l'a même enseigné. Matthieu 6, verset 13. C'est le fameux Notre Père qu'on a tous appris d'une manière ou d'une autre. Et en fait, il termine, bon, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et Jésus termine en enseignant sur la prière en disant Amen. Qu'il en soit ainsi. Donc là, on voit au niveau de la prière. Par exemple, 1 Corinthiens 14, verset 16 aussi. 1 Corinthiens 14, verset 16. Il est dit, autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, c'est-à-dire si tu remercies le Seigneur, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Alors là, simplement, pour vous remettre dans le contexte, c'est Paul qui expliquait comment nous devons, je dirais, pratiquer notre prière en langue. Et en fait, Paul avait vu tout un tas d'abus dans l'église des Corinthiens, où tout le monde avait l'air de parler en langue n'importe comment, à n'importe quel moment. Et Paul disait clairement, si vous parlez en langue, personne ne peut vous comprendre. Donc, si tu dis des louanges au Seigneur, au travers de ton parler en langue, personne ne peut dire Amen, parce qu'on ne comprend pas. Mais l'idée ici, c'est que c'est clair que quand on prie, quand les uns prient et les autres prient, par exemple dans des groupes de
prière,
et qu'on est là en train de remercier le Seigneur, les autres peuvent appuyer en disant Amen, c'est biblique. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ça que ça veut dire. C'est un appui. Ce qu'on appelle en français une assertion. C'est-à-dire quelque chose que tu vas appuyer fortement. Alors aussi, dans Romains 1, verset 25, par exemple, Paul va utiliser cette expression. Dans Romains 1, verset 25, on peut lire peut-être un peu plus haut, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu, c'est-à-dire la vérité de refuser de reconnaître que la création a pour origine un créateur. C'est ça l'idée ici dans le Romains chapitre 1. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, qui est béni éternellement, et Paul, voyez, il met Amen.
Donc
vous voyez, c'est vraiment quand tu sens quelque chose dans ton cœur, quand tu es d'accord avec ce qui est prié, ou quand il y a une déclaration qui est faite par quelqu'un qui est biblique et qui parle de la puissance, de la grandeur de Dieu ou une vérité, il est biblique de dire Amen. C'est ce que Paul nous montre. Romains 9, verset 5. Je vous montre quelques exemples de l'utilisation de ce mot. On peut lire peut-être un peu plus haut encore, verset 4. Car je voudrais, verset 3, moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Ça, c'était le fardeau que Paul avait par rapport aux Juifs qui refusaient régulièrement de croire en Christ et qui persécutaient les chrétiens à l'époque. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, verset 5, et les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Juste la fin, tu peux lire.
Ndashobora gusoma ngaha ku murongo wa gatanu ngo bafise basogokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo ni wari hejuru ya byose ni we Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira acarangiza avuga ngo Amen.
Alors, on peut lire rapidement pour un dernier verset, mais après je vais vous montrer dans quel sens c'est utilisé dans l'Apocalypse. Regardons d'abord Apocalypse 5, verset 14.
Ndashobora no kuraba mu byahishura Yohana gatanu murongo wa 14.
On va lire à partir du verset 13.
Verset 13 et 14.
Et là il est dit: et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent.
Amen.
Alors, vous voyez que très souvent c'est utilisé dans ce sens-là, au niveau de la prière, au niveau de des déclarations de vérité. Et l'idée ici dans Apocalypse 3:14, où il est dit: voici ce que dit l'Amen. Jésus se nomme comme étant l'Amen. Et en fait, l'idée ici, c'est qu'en fait, c'est pour montrer que Jésus, ou Dieu en général, n'est pas quelqu'un qui change d'avis. Le mot Amen dénote aussi une confiance absolue envers qui il est prononcé.
Iri jambo amen kandi yerekana ubwizigwa cyangwa kwizera gushitse uwo muntu avuze ikintu.
Regardons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 1.
Abikorinto ba kabiri gice ca mbere.
Au verset 20.
Ku murongo wa 20.
1 Corinthiens 2 Corinthiens pardon, chapitre 1 verset 20.
Abikorinto ba kabiri igice ca mbere murongo wa 20.
Il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu.
Gwivyimana yasezeranye uko bingana muri we niho ego me riri nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen.
Donc l'idée ici quand Jésus se présente comme l'amen, c'est-à-dire qu'il est celui en qui toutes les promesses sont là et en qui nous pouvons avoir une confiance absolue. Ça veut dire que
Christ
n'est pas celui qui a fait des promesses et puis un jour se dit, oh finalement, je me demande si j'ai eu raison de leur promettre ça aux hommes. Je vais changer d'avis. On va revoir le contrat, entre guillemets. Et Dieu n'est pas un homme pour changer. Comme dit l'Ancien Testament, pour se repentir, c'est-à-dire changer d'avis. Quand Dieu a prononcé quelque chose, c'est absolu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas dire une chose, promettre une chose et changer l'autre jour. Dieu nous a fait des promesses immuables, que ce soit dans le temps présent, que ce soit pour l'éternité. Et quand il est dit voici ce que dit l'amen, ça implique toutes ces choses-là. Ça implique une absolue confiance que nous devons avoir par rapport à ce que Dieu a fait en
Christ.
Ensuite, il est dit au verset 14, le témoin fidèle et véritable. L'idée ici, le témoin fidèle, le mot fidèle en grec, c'est toujours, il y a toujours une racine de la foi, une racine de croire, du verbe croire. Donc là aussi encore, voici celui qui ne change pas, qui a fait des promesses qui ne changent pas, le témoin fidèle sur lequel tu peux compter, et ce qu'il a dit est vrai, véritable. Tu peux avoir une totale confiance. Apprenez à vous confier dans ce que Dieu a promis. Il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est lui montrer qu'on a confiance en lui. Quand tu agis quelque part, agis dans la foi. Dis-lui, Seigneur, tu as dit, les conséquences, ce n'est pas mon business. Moi, je marche dans la foi. Je marche sur ta parole. J'obéis. Je fais ce que tu me dis de faire. Les conséquences, ça ne m'intéresse pas de les connaître. Parce que souvent, nous ne voyons pas la gloire de Dieu par rapport à des situations. Parce que finalement, nous doutons très sérieusement de ce qu'on appelle la véracité de la parole. C'est-à-dire que Jésus est vraiment le véritable. Que ce qu'il a dit, il ne reviendra pas dessus. C'est une parole qui va créer la vie dans les situations. C'est une parole, quand tu la crois, quand tu agis dessus, Dieu ne peut pas manquer d'agir. Dieu agit selon sa parole. Et souvent, nous ne voyons pas Dieu agir parce que nous hésitons en disant, mais ok, si je fais ça, je prends des risques. Je prends des risques. Et c'est normal. Dans la foi, il y a des risques, mon frère, ma sœur. Par contre, il y a une très grande rémunération pour ceux qui marchent dans la foi. C'est vrai qu'au début, ça fait peur de marcher dans la foi. Tu prends, en fait, c'est comme si Dieu te dit, voilà, la fenêtre est ouverte, saute, et tu regardes. Tu dis, mais Seigneur, il y a du brouillard, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Dieu dit, saute. C'est moi qui m'occupe du reste. Et tu es là, tu dis, non, Seigneur. Montre-moi, enlève le brouillard là pour que je puisse voir ce qu'il y a en dessous. Et Dieu te dit, saute. Je te récupère, je m'occupe de tout. Tout est entre tes mains, entre mes mains. Et ça comporte des risques. Tu ne marches pas aveuglément dans la foi. Parce que tu as la parole pour te soutenir. Quand Pierre est sorti de la barque, Jésus lui a dit, viens. Et il n'a pas marché aveuglément. Il n'a pas sauté par lui-même de la barque. En disant, Seigneur, moi je vais venir te rejoindre comme ça. Il a attendu, il a dit à Jésus, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi. Ah, Jésus aime ça quand on le provoque. Quand on le provoque pour qu'on se marche dans la foi, il aime ça. Et là, Pierre avait provoqué Jésus. Croyez-moi, Jésus a dit, bah viens. Et Pierre, sans réfléchir, en marchant seulement sur la parole, il est sorti. Et il a marché sur l'eau. Vous connaissez l'histoire. Après, il a considéré les circonstances. Il n'a plus cru dans la véracité de la parole de Jésus. Et il s'est retrouvé dans l'eau. Et c'est là où tu fais tes expériences. Tu dois apprendre à faire tes expériences. Mais sache une chose, il est l'amen, le témoin fidèle et le véritable. Ça, il faut que tu apprennes à compter sur lui. Que tu arrêtes à être monsieur prudent et trop prudent. Il
ne
faut pas être fou non plus. Mais il faut apprendre à marcher dans la foi. Mais tu dois apprendre. Il y a des moments où Dieu te dira, vas-y. Je l'ai dit dans ma parole. C'est à toi de marcher dans cela. Et tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que tu apprendras à marcher. À petit à petit, comprendre comment Dieu fonctionne. Comment le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est là où tu découvres une vie surnaturelle. Beaucoup de gens ne marchent pas dans le surnaturel parce qu'ils ne prennent pas Dieu à sa parole. Et au début, c'est vrai que c'est pas simple. Parce que c'est un autre monde. C'est le monde de Dieu. C'est le monde où tu vois Dieu agir, mais tu ne vois pas comment il agit. Tu vois et tu sais qu'il agit parce que tu marches dans la foi. Jusqu'à temps de voir le résultat. Mais Dieu ne t'expliquera pas comment il a fait les choses. L'important, c'est que tu vois le résultat. Ensuite, la Bible va nous dire l'auteur de la création de Dieu. Alors là, bien sûr, ça nous ramène à Colossiens 1:16 et Hébreux 1:2. Rappelez-vous que Jésus est l'auteur de toutes choses. Colossiens 1, verset 16, il est dit, en lui, car en lui ont été créées toutes choses, et les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Ngo muri we ariho byose byaremewe ibyo mwijuru n'ibyo mwisi biboneka n'ibitaboneka uri intebe z'icubahiro urubwami urubukuru urububasha byose byaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe.
Jésus est incontournable.
Yesu ntaho muca.
Dieu le Fils est incontournable.
Umwana w'Imana ntaho muca.
C'est clair dans la Trinité, Dieu le Fils est incontournable.
Mu butatu bw'Imana umwana w'Imana ntaho muca.
Le salut, c'est par Christ. La création, c'est par
Christ.
Le Père avait planifié tout ça. Mais tout est passé par
Christ.
Et pour lui. La bonne nouvelle, c'est que c'est ton frère. Vous savez que Jésus est notre frère. Jésus est notre frère. Et il a disposé, le Père a disposé le royaume en notre faveur. Ça, c'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui aime partager. Dieu n'est pas un radin. Dieu n'a pas fait les choses pour lui-même, seulement pour lui. Il a fait les choses pour son fils en vue que nous puissions en profiter. Parce que la création a été créée pour Christ, a été faite pour Christ et par Christ. Mais l'objectif de Jésus a toujours été de partager avec nous. C'est pour ça que la Bible nous appelle les co-héritiers. Héritiers avec. Le Père a fait de Christ l'héritier. Vous trouverez ça dans Romains
8.
Et il est dit que nous sommes co-héritiers. Mais tout a été fait par lui et pour lui. Mais l'objectif n'est pas seulement pour qu'il garde tout pour lui. C'est pour qu'il partage avec nous. Nous qui avons accepté de croire en son Fils. Nous qui avons renoncé au péché. Nous qui marchons avec lui. Nous qui avons dit ce monde est a pour destinée la perdition. C'est pourquoi nous sommes sortis de ce monde. Pour entrer dans le royaume. Parce que nous savons que nous avons un héritage. Bien sûr, dans le temps présent, pour pouvoir dominer, pour pouvoir marcher avec sa gloire. Mais nous avons un héritage éternel qui est beaucoup plus important que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux vivre une mesure de la gloire. Mais quand tu seras avec lui, tu vivras la plénitude de la gloire. Entre temps, tu peux faire plein de choses ici. Et tu peux rendre ta vie intéressante. Mais il faut que tu le désires. Donc Jésus est l'auteur de la création. Hébreux chapitre 1 verset 2. C'est un autre verset qui nous parle. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde.
Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo wo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose niwe yahaye kurema isi.
Les gens se battent pour les héritages naturels.
Abantu baragwana ngo baronke kuragwa iby'isi.
Mais nous avons un héritage en Christ.
Twe turafise kuragwa muri Kristo.
Dans ce monde.
Muri nosi.
Ne te bats pas jusque à démolir ta santé pour récupérer des biens. Au contraire, sois transformé par la puissance de Dieu. Et Dieu t'amènera beaucoup plus de choses que ce que tu es en train d'essayer de récupérer en te bagarrant. Si tu as l'intelligence de Dieu, pour ça, ça va te demander de changer à l'intérieur. Alors ensuite, au verset 15 jusqu'au verset 17, Jésus va parler d'un certain nombre de choses. Il va dire, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, seulement si tu étais froid ou bouillant, c'est-à-dire au moins on saurait où tu te places. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu de la honte et que la honte pardon, de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Alors ici, le Seigneur va nous parler de plusieurs choses. Et en fait, ce que Dieu reproche à cette église, c'est qu'elle pense être super spirituelle. Et en fait, Jésus lui dit, mais tu es complètement aveugle, tu n'as rien compris. Et vous savez, ce que nous voyons parfois avec nos yeux, c'est trompeur. Des fois, nous pouvons voir des églises qui sont très grandes, mais à l'intérieur, il
n'y
a rien dedans. Et des gens qui se vantent. Et on le verra de plus en plus d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enseignements sur le succès, sur la réussite. Et moi, je ne suis pas contre, mais il y a un travers pervers. C'est que finalement les gens veulent réussir, ou même des prédicateurs veulent réussir, en disant moi j'ai tant de personnes, moi j'ai ceci, moi. Et ils concentrent les gens sur le moi. Je crois que si nous avons bien un message dans la parole de Dieu, c'est montrer clairement l'exemple de Christ qui s'est donné pour les autres. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et Jésus a mis plusieurs fois les pendules à l'heure dans la parole de Dieu à propos de ces mentalités égoïstes de moi, tout vers moi. Moi je veux une position, moi je veux être béni, moi. Et puis finalement tu ne t'occupes pas des autres. Et de plus en plus on sent ces mouvements là je dois dire que ces dernières années il y a des choses qui commencent à me déranger. C'est un peu comme ce qui s'est passé dans les années 70-80 avec le message de la prospérité. Dieu a commencé à parler à des serviteurs de Dieu à propos de la prospérité financière, pour que vraiment des chrétiens comprennent l'enjeu des finances. Et vraiment le Seigneur a parlé clairement à des serviteurs de Dieu. Et beaucoup de ces serviteurs de Dieu ont reçu des révélation sur la parole qu'ils n'avaient jamais reçue avant. Mais malheureusement, ce message qui est biblique a été utilisé par beaucoup de gens. Il faut que vous sachiez que dans le corps de
Christ,
il y a beaucoup de modes qui viennent. Et quand des prédicateurs voient que certains trucs marchent bien chez les autres, ils essaient de l'appliquer. Et par exemple, pour l'aspect de la prospérité, beaucoup de gens après ont enseigné ou ont prêché: devenez riche, soyez bien, montrez que vous avez des belles bagnoles, des belles maisons, des beaux, que vous avez un gros compte en banque. Tout ça c'est pas mal, mais ça dépend de la mentalité, parce que la Bible est très claire là-dessus aussi. On ne doit pas chercher des richesses pour des richesses. On doit chercher le Seigneur, et une des conséquences, ce sera la prospérité financière. Et si je suis béni financièrement, c'est uniquement pourquoi? Être une source de bénédiction pour le royaume et pour bénir les autres, pour aider les autres. Ça doit être toujours notre mentalité. Mais vous voyez, ça a été complètement tordu au bout d'un moment, où il y a des prédicateurs qui n'ont mis que l'accent sur il faut donner 1 000 $, vous aurez 10 000. Jésus a dit ce sera multiplié par 10, ce sera multiplié par 100, blablabla. Et ça a mis du discrédit sur un excellent message. Mais quand c'est déséquilibré, les gens pensent qu'ils réussissent et ils deviennent aveugles, ils deviennent tièdes. Et franchement, ça fait vomir. Des fois, on voit des gens qui finalement ont pris qu'une partie du message de l'évangile pour des intérêts personnels. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment triste de voir ces choses. Restons toujours équilibrés dans la doctrine. Nous devons prêcher la saine doctrine. Parce que sinon il y a un orgueil spirituel qui se crée. Cette église était orgueilleuse. C'était une église qui disait: nous on connaît tout, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin des autres, nous on sait tout. Regardez, nous sommes nombreux, regardez, les gens sont bénis. Tu peux être béni, tu peux avoir une certaine mentalité de réussite, de succès, mais ça peut être une catastrophe pour ta vie, parce que finalement tu peux complètement retirer Christ de ta vie en utilisant des principes divins, parce qu'on a commencé à te mettre dans la tête tout un tas de trucs. Le vrai succès selon Dieu et le succès selon les hommes n'est pas du tout la même chose. Je parle ici de chrétiens. Je parle de chrétiens, je ne parle pas entre le païen qui réussit et le chrétien qui réussit.
Mais
de plus en plus, nous avons des courants comme ça actuellement. On parle de leadership, c'est très bien. Mais encore faut-il qu'il y ait le cœur de Dieu dans le leader. Sinon, ce sont des bouts de papier, des diplômes sur le leadership. Ce sont des gens qui enseignent des choses qu'ils ne pratiquent même pas. Ce sont des trucs, un langage apprêté. Parfois, on entend parler des gens, il n'y a pas une virgule qui manque dans leur discours. C'est très bien de s'exprimer correctement avec un super langage, avec des jolis mots. Mais quel cœur y a-t-il derrière? Quel esprit y a-t-il derrière? L'esprit de l'évangile ou l'esprit de la réussite personnelle? Et parfois, c'est trompeur. Cette église était aveugle. C'était certainement une église qui paraissait très, comment on dit en anglais, successful, c'est-à-dire vraiment remplie de succès, qui marchait, entre guillemets, apparemment très bien. Mais l'intérieur n'était vraiment pas clair. La Bible va nous parler d'être riche selon Dieu. Il y a une parabole que Jésus donne dans Luc chapitre 12. Elle s'adresse à des inconvertis. Luc chapitre 12, à partir du verset 13. C'est vrai qu'elle s'adresse à des inconvertis, mais elle nous parle aussi à nous. Je ne sais pas pourquoi ce soir il y a le mot héritage qui revient. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un problème de ce côté-là. Ça n'arrête pas de revenir là, dans l'enseignement. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. En fait, il voulait que Jésus soit juge au parquet.
Et
voilà ce que Jésus va répondre. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, c'est-à-dire dans les affaires courantes, ou pour faire vos partages? Verset 15. Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme, regardez bien, ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Puis ensuite, il va donner une parabole, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, verset 17, et il raisonnait en lui-même, en disant: Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et regardez bien ce petit bout de verset qu'on va lire en Kirundi après, et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous avez la richesse des hommes et la richesse selon Dieu, ce n'est pas la même chose. Alors là aussi, il faut faire très attention, parce que quand des gens entendent ça, ils se disent finalement: La parole de Dieu condamne les richesses, ceux qui sont riches dans le naturel. C'est faux. La vraie richesse selon Dieu doit être le reflet de la mentalité, du caractère de Dieu qu'il y a en toi. Ce qui va d'ailleurs produire beaucoup de choses. Ça va produire une intimité profonde avec Dieu. Mais pas seulement, parce que vous savez, il y a des gens qui disent: moi je prie beaucoup, moi je lis beaucoup la Bible, moi je suis tout le temps à l'église. Mais quand on voit leur vie en général, vous dites: ces gens-là ne sont pas riches selon Dieu. Ils sont tout le temps malades, tout le temps dans la défaite, ils sont dans la pauvreté, ils ont des mentalités vraiment primaires, arriérées de paysans. Excusez-moi l'expression. Ils vont faire des histoires pour n'importe quoi. Ils ont des querelles partout. Ils sont jaloux. Mais ils sont tout le temps à l'église en train de prier. Ils lisent la Bible 2 heures par jour. Ça, c'est pas être riche pour Dieu. Voyez la différence. Les gens qui sont là, moi je suis, j'ai tout juste de quoi faire hein, parce que le Seigneur m'a dit que il va me garder humble. Ça, c'est pas la richesse selon Dieu. Ça, c'est la stupidité diabolique qui s'est vraiment insérée dans beaucoup de mentalités chrétiennes. La vraie richesse selon Dieu, c'est voir Dieu infuser son caractère et sa gloire dans ta vie. Et quelles que soient les situations auxquelles tu fais face, tu vois les choses selon Dieu. Ta relation avec Dieu est très forte. Et comme ta relation avec Dieu est très forte, et que tu deviens quelqu'un qui a la mentalité de Dieu, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Vous savez, votre entourage montre exactement qui vous êtes. Regarde qui, par qui tu es entouré. Et tu verras qui tu es. Regarde bien. Dans tes relations avec les hommes, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Ils disent non, 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 moi j'ai besoin de personne. Faux.
Tu
as un problème. Ou alors il dit, ah, tous les autres sont méchants avec moi.
Tu
as un problème. Vous savez, il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à attirer des bonnes personnes. Je me souviens un jour, il y avait un pasteur qui me disait ça. Je
ne sais plus
si je vous ai raconté ça dans cette série d'enseignement ou dans une autre, peu importe. Mais c'était une jeune fille qui voulait se marier. Et à chaque fois, elle disait, mais à chaque fois que j'ai un fiancé, c'est la catastrophe. Le type me fait tous les coups possibles, imaginables. Et ça fait 4 ou 5 fois que ça arrive. Le pasteur qui avait vraiment l'éducation dans le royaume lui a répondu, tu sais, tu devrais regarder exactement qui tu attires. Parce qu'apparemment c'est toi qui as un problème. Elle était choquée, la fille, d'entendre ça. Mais il y a une vérité ici, frère
et sœur.
À partir du moment où tu es proche de Dieu, obligatoirement, on dit en français, qui se ressemble, s'assemble. C'est un principe. C'est la loi de l'attraction. Tu attires qui tu es. Si tu es un échec, tu attires que des gens qui sont dans les échecs parce que vous aimez passer du temps à manger vos échecs. Les petites grand-mères malades, elles sont avec les petites grand-mères malades en train de parler de leur maladie. Les gens pauvres sont souvent avec les pauvres pour parler de leur pauvreté, de leurs petits ennuis, de leurs gros ennuis. Regardez, nous attirons ce que nous sommes. Regardez. Ça va vous aider. Vraiment, ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Mais si vous êtes proche de Dieu, et vraiment vous avez une relation profonde avec le Seigneur, ça doit déborder dans vos relations avec les autres. Si vous attirez tout le temps des gens qui sont bizarres spirituellement, moi j'ai un problème avec vous. Là. Parce que les gens bizarres spirituellement, ils attirent les gens bizarres. Regardez autour de vous allez voir ce principe. C'est très simple. Et quelqu'un qui vit vraiment proche du Seigneur selon les critères divins, qui est riche selon Dieu, obligatoirement ça va déborder dans sa santé. Parce que moi je ne crois pas que Dieu ce soit un vieux Muzungu avec une grosse barbe avec un bâton sur son trône. Mais Dieu est rempli de force, de joie, de paix et de gloire. Et obligatoirement, quand tu es en contact avec lui, il y a quelque chose qui se passe. Les gens qui vieillissent trop vite, ils ont un problème.
Amen.
Oh là 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 là. Mais saisissez quelque chose. Je suis en train d'essayer de vous apprendre les principes divins. Les gens qui vieillissent trop vite, ils ont un problème. Les gens qui disent je suis proche de Dieu et tu les vois, ils ont 40 ans.
T'es
proche de qui? T'es pas proche de Dieu. Dieu est rempli de puissance et de force. Tu renouvelles tes forces pendant la marche. Quand tu es dans sa présence, il y a quelque chose qui se produit. Ou alors, c'est que tu n'es pas dans sa présence.
Tu n'as
pas compris. Tu n'es pas riche selon Dieu à ce moment-là. Être riche selon Dieu, ça va produire quelque chose. Son onction produit quelque chose dans ta vie. Ça va produire des finances. Tu vas avoir des idées que les autres n'ont pas. Il y a plein de choses qui vont te passionner. Mais malheureusement, il y a des gens qui confondent la réelle richesse de Dieu et l'égoïsme passionnel. Ça, c'est dangereux. Et ça, ça, c'est des mouvements qui arrivent dans les églises actuelles. Parce qu'on on prêche le succès. Et je vous dis, Dieu nous appelle à réussir. Mais on oublie de nous donner les critères bibliques pour ça. Et je vous le dis, c'est des mouvements que vous allez voir de plus en plus ici. Des gens qui ne parlent que de vous. Quand ils prêchent, ils disent toi, oui, toi tu seras ceci, toi tu seras grand, toi tu seras prophète, toi tu seras. Et ça, c'est des trucs pervers qui ne sont pas de la vérité. Et les gens pensent qu'ils sont riches avec ça. Qui sont riches de la parole de Dieu, et c'est faux. Parce qu'on ne les amène pas à sincèrement être purgés dans leur caractère, nettoyés dans leur caractère. Jésus a dit que si on veut être son disciple, on doit renoncer à sa vie, ça n'a pas changé. Mais ça, on ne le prêche plus beaucoup. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont abusé avec ça, et trop. On a prêché que le chrétien doit souffrir, ça veut dire qu'il doit être pauvre, il doit être malheureux, il doit être bête, inéduqué, malade. En fait, avoir toutes les histoires que le diable met sur les hommes.
Mais
ça, c'est faux, ça n'a rien à voir avec porter sa croix ou la souffrance selon Dieu. Mais lisez les épîtres de Pierre, vous verrez ce que veut dire la souffrance selon Dieu. Et quand tu es riche selon Dieu, il y a des moments où le diable essaiera de tout faire pour te dégommer. Donc en fait, cette église pensait qu'elle était riche parce que certainement qu'elle était dans le succès entre guillemets. Mais apparemment le Seigneur la reprend très sévèrement en lui disant tu as complètement glissé, tu crois que tu vois alors que tu es aveugle, tu crois que tu es dans le succès et c'est pas le succès, c'est pas la richesse selon mon cœur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 à propos d'être revêtu, parce que Jésus en parle ici. Jésus en parle d'être revêtu. 2 Corinthiens chapitre 5. Paul dit la chose suivante. Verset 1, il dit « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, c'est-à-dire ton corps, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, dans ce corps, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre.
Turazi uko inzu y'urusago yacu yo kwisi ni yaramuka isambuwe dufise inyubako iva ku mana inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mwijuru kuko tunihira muri urusago twifuza kugwambukirwa kw'inzu yacu kugwambikirwa kw'inzu yacu izova mwijuru.
Mais verset 3 il dit la chose suivante: si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et c'est là où beaucoup de gens se méprennent. Jésus est clair là-dessus. Le vrai, la vraie richesse selon Dieu n'est pas la mesure de ton succès selon l'homme ou selon peut-être des techniques que tu vas prendre. Sans donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que rappelez-vous d'une chose. Il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas. C'est qu'on se glorifie pour quelque chose qu'il fait. Rappelle-toi que quand tu auras ta récompense, Dieu mettra sa gloire sur toi, tu seras glorifié. Tu recevras la louange de Dieu, nous étudierons ça. Pendant ce temps de tribulation où les gens sont jugés par Dieu sur cette terre et nous, nous recevrons nos récompenses. Mais entre-temps, tu ne peux pas prendre un atome de sa gloire. Sinon, c'est la chute pour toi. Ensuite, au verset 19 de toujours Apocalypse 3, il dit, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors c'est très intéressant d'étudier ces mots-là dans le grec, parce que Jésus dit d'abord, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Je vous rappelle que Dieu nous donne toujours une porte à partir du moment où il trouve un cœur repentant. Quand nous faisons des erreurs, quand nous péchons, Dieu ne ferme pas la porte en disant c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi. Il a toujours une porte pour nous dire repens-toi. Et il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et ce verbe châtier est très intéressant dans le grec. Parce qu'il ne signifie pas, comme pensent beaucoup de gens, châtier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous enlever des biens, Dieu va nous enlever la santé, Dieu va nous faire mourir. Non, ça n'a rien à voir. Ce mot veut dire châtier en vue que la personne se corrige. Ça veut dire éduquer, comme un père va éduquer son enfant. Ça veut dire influencer la volonté de quelqu'un et ses actions. Car on recherche son bien. Dieu veut toujours rechercher le bien des églises. Jésus s'est donné pour l'église. Il aime son épouse, mais il veut que son épouse se comporte correctement. Et l'amour de Dieu n'est jamais un amour qui est faible. C'est comme un parent. Lorsqu'un père ou une mère commence à voir son enfant aller vers un danger, le réflexe de tout parent, ici on a des parents, c'est quand on voit notre enfant aller vers un danger, qu'est-ce qu'on fait? On le prend par le bras et on l'arrache du danger. Ou alors, s'il y retourne, on utilise la main droite ou la main gauche. Et quand il a fait une grosse gaffe, on utilise quelque chose d'un peu plus lourd. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on va haïr notre enfant? Je vois mes enfants qui rigolent et je pense à quelque chose. Un jour, ils m'ont énervé. Et ils mangeaient, vous savez, du maïs. Et ils mangeaient du maïs d'une façon qui ne me plaisait pas. Et j'ai voulu les corriger, et je me suis énervé, j'ai pris les maïs, et j'ai jeté ça à la figure. Vous imaginez un peu ce que j'ai fait. Parce que j'étais fâché.
Ça,
c'est pas la correction selon Dieu.
Ça, c'est
quand on est énervé contre ses
enfants.
Mais la correction selon Dieu, c'est toujours en vue que nous puissions revenir dans ses voies. Nous améliorer. Changer. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et là, la Bible est claire. Cette église avait des travers très sérieux. Elle était vraiment, elle se pensait super classe, super spirituelle, super réussie. Mais Jésus voyait bien au travers.
Il
voyait très bien que cette réussite, c'était quelque chose qui était faux.
Et
qu'elle était devenue aveugle.
Et
Jésus la corrige.
Il
lui dit, repens-toi. Parce que moi j'aime et je corrige ce que j'aime. Donc ressaisis-toi. Et reviens. Reviens dans ce que je veux que tu fasses. Ensuite, bon, Jésus va dire la chose suivante. Voici, je me tiens à la porte, verset 20 et verset 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, pardon, et je souperai avec lui et lui avec moi.
Ngwemhagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire.
Alors ici on parle de porte et on parle de voix.
Arero baratubwira ijwi bakatubwira umujyango.
Et on parle de communion.
Bakatubwira gusangira.
Voici je me tiens à la porte du cœur.
Emhagaze ku rugi rw'umutima.
Il y a un jour quelqu'un qui disait qu'il prêchait l'évangile.
Et
j'ai beaucoup aimé son image.
Et
il disait, notre cœur a une porte.
Mais
dans cette porte, il y a une poignée que d'un seul côté. À l'intérieur de toi. Et Jésus toque à la porte de ton cœur. Mais Jésus n'a pas la poignée de son côté pour ouvrir et entrer. C'est toi qui as la poignée seulement de ton côté. Qui ouvre et qui dit au Seigneur, viens. Et ça, c'est la position de Jésus. La position de Jésus, souvenez-vous de ça de quand vous évangélisez.
Dites
toujours aux gens, Jésus est à la porte de ton cœur.
Mais
il ne peut pas forcer la porte de ton cœur. Il n'a pas la poignée pour ouvrir. Il toque. Et aujourd'hui, quand je te prêche l'évangile, il toque à la porte de ton cœur. Et tu es le seul qui a la poignée de ton côté. Tu es le seul qui peut ouvrir et le laisser entrer dans ton cœur. Donc c'est la position de Jésus jusqu'à quoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à temps qu'il revienne chercher son église. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai dans son cœur. Bien sûr, ça nous fait penser à tout ce que Jésus a dit dans Jean chapitre
10.
Que ses brebis connaissent sa voix. Quand il nous parle qu'il est le bon berger. Que ses brebis entendent et connaissent sa voix. Donc Jésus a toujours ses bras d'amour. Ses bras d'amour pour accueillir toute personne qui vient avec un cœur repentant et qui veut ouvrir la porte de son cœur pour entrer dans son cœur et être sauvé. Ça, c'est vraiment l'attitude de Jésus-Christ jusqu'au moment où il va revenir, chercher son église. Et l'idée, je souperai avec lui et lui avec moi, ça veut dire que nous serons dans une intimité. Je vous rappelle que l'évangile est basé sur une relation et non pas sur une religion. La religion n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la soif de ton cœur et la relation d'intimité qu'il veut créer avec toi. C'est son désir profond que tu apprennes à écouter sa voix, à lui obéir, à marcher selon sa parole. et tout cela vers l'éternité qui t'attend. Jésus dira au verset 21, nous allons clôturer avec le verset 21 et 22, le vainqueur, c'est-à-dire celui qui va dompter, qui va vaincre, qui va triompher, qui va surmonter les circonstances et le monde. Qui va surmonter les circonstances. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et toujours Jésus revient. Et je vous le dis, l'Apocalypse est vraiment le royaume, l'histoire de la finalité du royaume de Dieu. Nous construisons un royaume éternel et l'éternité doit être toujours quelque chose qui façonne nos convictions et nos décisions. Jésus a vaincu le monde. Il n'a pas laissé le monde prendre sur lui. Il a vaincu le monde. Et toi, c'est la même chose. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus du monde. Et Jésus te promet une place dans le royaume éternel. Ce que Dieu veut, c'est que tu apprennes à le servir dans ton corps ici. Jésus se crée un peuple de tout pays, de toute nation, de toute ethnie, de toute couleur, etc., etc. Parce que c'est avec ce peuple-là qu'il régnera pour l'éternité. Et c'est vous et moi. Et ce que Dieu te demande, c'est d'apprendre à être vainqueur sur ce monde, sur tes circonstances, sur le péché, sur tout ce qui peut amener la malédiction chez les hommes. Parce qu'il habite en toi. Et il a dit au vainqueur, celui qui va vaincre, celui qui ne marchera pas selon le train de ce monde, il s'assiera avec moi. Et ça, c'est une promesse, frères et sœurs. Peut-être que nous n'en entrevoyons pas la portée de cette promesse. Mais je vous dis une chose, si vous voulez marcher à la gloire de Dieu, il faut vraiment que la perspective de l'éternité soit ancrée en vous. Parce que dire je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, c'est bien, mais derrière tout ça, ça implique énormément de choses. Ça implique ce que nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est la révélation par la parole de Dieu. Jésus clôturera ce message aux sept églises en disant toujours la même recommandation. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça, c'est toujours la même recommandation. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut, c'est que cette parole soit écoutée et qu'elle soit pratiquée et qu'elle nous serve de leçon pour diriger nos vies, pour diriger nos églises, pour nous motiver, pour façonner nos convictions, pour que nous puissions passer sur cette terre en tant qu'étrangers et voyageurs, tout en accomplissant notre destinée, ce que Dieu a écrit pour nous dans le ciel. Et tout cela, c'est ce que Dieu veut. Mais encore faut-il le comprendre spirituellement. La prochaine fois, nous commencerons à passer à l'autre phase de l'Apocalypse. Là où le Seigneur va commencer à se révéler d'une façon incroyable, où Jean va faire cette expérience du troisième ciel. Et il va voir se dérouler devant lui les événements prophétiques. D'abord de la tribulation et la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.